Vous écoutez Radio Campus, il est 19h.
C'était au mois de mai, moi qui t'aimais comme jamais.
Pour
cette photo toute gondolée qui a pris l'eau.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, Véran. Mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
C'est le capitalisme, n'y pas, jouez pas au con avec lui.
On est trop gentil.
La rouge, c'est la couleur du sang, la rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
Donc on est gentil, hein, on est toujours gentil.
C'est le capitalisme, n'y pas.
Arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Que Véran.
Quoi, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Lille 106,6 et en streaming sur campuslille.com. Aujourd'hui et comme tous les lundis de 19h à 20h, on passe au rouge, une émission de la lutte des classes réalisée par toi Seb.
C'est une émission que tu animes mais aussi que tu interviews, que tu montes,
que
tu prépares, que tu reportes.
Alors avec nous tout à l'heure il y aura Jean-Jacques qui nous a fait l'honneur de deux reportages qu'on entendra tout à l'heure. L'un dans une AG étudiante et l'autre dans la manif avec les orthophonistes en lutte. Tu as entendu ? Les orthophonistes.
Ouais,
tu l'as. À partir du moment où les orthophonistes rentrent dans la lutte,
c'est bon.
Je peux te dire que le mouvement s'est élargi. Mais avant cela, on vous emmènera sur
les
le piquet de grève.
Les orthophonistes qui ouvrent leur gueule. C'est joli.
On vous emmènera sur le piquet de grève des Cargill de l'usine d'Aubourdin. Ils sont menacés par un plan de sauvegarde de l'emploi qui vise à supprimer 183 emplois, justement.
Combien d'emplois ?
183
attends,
emplois.
Attends, répète, j'ai pas dû bien...
Ils sont menacés par un plan de sauvegarde à l'emploi qui vise à supprimer 183 emplois.
Mais ça peut pas être de la sauvegarde de l'emploi quand on enlève 180 emplois.
Va comprendre. Ensuite, on retrouvera évidemment Massy et sa chronique en fin d'émission, mais vous l'entendez, chers auditeurs, le studio est trop calme, elle n'est donc exceptionnellement pas là, ça c'est sûr. À 19h35 pétante, nous interviewerons Hugo Paglietta, le sociologue.
Parce qu'elle est sur le terrain, attention, Massy, la lutte, hein, elle est en train d'organiser un truc là.
Et à 19h35, Hugo Paglietta, le sociologue de l'Université de Lille, directeur de publication de la revue en ligne contretemps.eu. Il vient de sortir l'excellent bouquin La possibilité du fascisme, qui, comme son nom l'indique, traite de la possibilité du fascisme en France.
Merci. Voilà.
C'est un art de trouver un titre. Mais avant, et comme tous les lundis, on retrouve Jérôme Leroy et son talent de fer.
Salut Jean-Jacques.
Jean-Jacques, ça va ?
Salut.
On ne te dérange pas peut-être pour le début de l'émission ?
Non, ça va.
Arrêtez de parler.
Ah, merci, ouais. Bon, allez, tout de suite, le talent de fer à relire dans Liberté Hebdo, bien sûr. On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
La folie populiste. On admire beaucoup Trump dans une certaine droite française, dite populaire, dont la pensée se résume en fait à la joie mauvaise quand le peuple donne une bonne leçon aux élites en votant pour des imbéciles et des psychopathes entourés par d'autres imbéciles et d'autres psychopathes. C'est cher payé, la haine de tout ce qui est à gauche, de la trottinette et des voies piétonnisées, je trouve. Il y a quelques jours, Trump menaçait, rien que ça, de bombarder 52 sites culturels ou lieux de mémoire iraniens. Son entourage, qui ne vaut guère mieux que lui, mais qui doit être un peu moins atteint mentalement, l'a, semble-t-il, dissuadé pour l'instant. Il n'empêche que cette idée lui soit venue en dit beaucoup sur le bonhomme. Qu'on ne vienne pas nous ressortir le point Godwin. Cette menace est une menace nazie. Même pas fasciste, mais nazie. Et je pèse mes mots. Vouloir éradiquer une mémoire, c'est une solution finale. Le dernier exemple qui me vient à l'esprit est celui des Bouddhas de Bamiyan détruits par les talibans en 2001. Détruits froidement, pas dans le feu de l'action, comme ont pu être détruits des monuments en Syrie, comme Palmyre, par exemple. Ce n'est pas une excuse, le feu de l'action, mais tout de même, ce n'est pas délibérément vouloir procéder à l'ablation du lobe frontal d'un pays pour le transformer en légume. En fait, Trump est un taliban. Trump est un daéchien. ou plus exactement, il est en pleine rivalité mimétique avec eux. Ce qu'il regrette, ce qu'il envie chez ces fondamentalistes, c'est ce que son Amérique fantasmée à lui a perdu. Une foi sans partage qui exclut la raison, une foi qui garantit la soumission des masses par intermédiaire d'évangélistes pour qui la terre est plate et le réchauffement climatique une invention chinoise pour empêcher le commerce. Trump envie aussi, chez ces islamistes, une domination masculine triomphante qui voile les femmes, une virilité mal placée dans l'esprit de conquête, la cruauté avec l'ennemi. Que cet ennemi soit intérieur, comme ces femmes jeunes issues des milieux populaires ou l'immigration, telle Alexandria Ocasio-Cortez, et qu'il devient difficile de traiter de bobo parce qu'elles, contrairement à lui, ont dû bosser pour réussir. Mais aussi cruauté avec l'ennemi extérieur, c'est-à-dire le reste du monde, surtout si ce reste du monde a du pétrole et qu'il ne veut pas se laisser faire. America first, comme aime dire Trump. Le vrai visage du populisme, y compris en Europe, n'est pas seulement celui de l'encouragement pulsionnel à la haine, c'est celui d'une barbarie encore un peu encombrée par de vieilles habitudes démocratiques, mais dont on saura bien se débarrasser. Trump montre le chemin. Jusqu'à la symbolique du chiffre 52, pour le nombre de cibles correspondant au nombre d'otages américains retenus en 1979 à l'ambassade américaine de Téhéran. Ce qui relève d'une pensée magique ou d'une mauvaise blague d'un prophète de l'Ancien Testament, mais certainement pas d'un chef d'État rationnel. Chez nous, en matière de populisme, on a réussi un exploit, une hybridation, une mutation génétique. On l'appelle le macronisme. Le macronisme parque les migrants avec des enfants dans des centres de rétention. Le macronisme réprime les manifestations avec un degré de violence rarement atteint et a, de fait, partiellement vaincu les gilets jaunes par la terreur que sa police a inspirée après quelques centaines de mutilations aux LBD et aux grenades de désencerclement. Le macronisme est un populisme avec de l'eau de toilette, l'arrêt au milieu et l'utilisation de mots de plus de 3 syllabes. Mais c'est un populisme. Et un populisme qui a d'ailleurs choisi sa propre opposition, qui est un autre populisme, celui du Rassemblement National. Mais ne vous y trompez pas. Entre l'UBU d'outre-Atlantique, qui veut réduire en cendres Ispahan, et le macronisme, qui veut détruire l'État-providence, il y a des différences de méthode, de degré, certainement pas de nature.
Et j'attire votre attention sur le fait qu'ils veulent encore augmenter l'âge de la pension. On travaille comme des esclaves, toujours pas de pouvoir d'achat. On se sent comme des lions qui mangent des croquettes pour chat. Et pendant ce temps, les ministres avec leur salaire à 5-0 nous font payer plus d'impôts, j'ai le compte gelé comme Sub-Zéro. De Bruxelles à Paris, on bloque tout dans les rues. Quand la France a un rhume, la Belgique éternue. Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout.
Le peuple se réveille, tout coup de carré à mort. Gilets jaunes dans la rue, va y avoir des barrages. L'État nous a pris pour des cons, nous on va s'y voter. Il reste plus un tour, mon compte, on se fait baiser en beauté. Ils ont dit que c'est nous les mauvais, c'est eux qui pleut des cailloux. Les médias défendent les députés, mais c'est eux les voyous. Voyous, c'est la merde, m'a dit mon père, fils ton champ d'été. Trop taxé par l'État, donc pas de vacances cet été.
Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout, bloque tout. On veut plus des CDD, donnez-nous des CDI. Le salaire des ministres monte pendant que le peuple est démuni. C'est nos salaires qui diminuent, et puis tout est diminué. Le prix du baril monte en flèche et y'a plus trop d'être au menu. Les dirigeants, l'humilité, vous trouvez ça, humilité. Gilets jaunes à pas la Bruxelles, en flashball se font shooter. On a marre de gilets jaunes et donc on mène nos gilets jaunes. Et à nous sous, faudra s'abonner lors de la révolte à sonner. Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout, bloque tout.
J'ai pas attendu le gilet jaune pour créer le mouvement. Je vais les coucher comme Christophe de Tagger, je suis un ouf moi. Ce qui se passe par ici frérot, c'est plus chaud que la Grèce. La police nationale, la Grèce, et tirons flashball sur la fesse.
Gilet, gilet jaune, on veut tous des billets bon.
Des pierres et des barres de fer, pas besoin de ça pour changer les choses. Faut faire la paix, faut faire la guerre et la mort frappez nous des hommes. On a tendance en gilet jaune parce que la voix du peuple résonne.
Gilet jaune, on bloque tout, bloque tout, bloque tout, bloque tout.
C'était un rap des Gilets jaunes de Belgique enregistré dans une manif Gilets jaunes en Belgique. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
Alors, oui. Gros Dada, c'est toi qui étais en reportage la semaine dernière.
Oui, Julien, lundi dernier. Oui.
Avec Julien.
Oui. Oui. On s'est pointé rue du Maréchal Joffre à Haubourdin, devant cette grande usine Cargill.
Elle ressemble à quoi, cette usine ?
C'est une énorme usine où, là, les cheminées, vous l'entendrez, les cheminées ne fumaient plus, parce qu'en fait, elle s'était mise en grève, cette usine, et on a été retrouver les ouvriers qui luttent.
Il y a un piquet de grève, oui. Il se trouve où ? Dans l'usine ?
Non, c'est... juste devant, dans la rue, là, à côté d'une école, d'une église et de cette usine. C'est vraiment une rue où tu as l'église, l'école et l'énorme usine à Haubourdin. Quoi. On ne peut pas la louper, on ne peut pas la louper.
Mais c'est quoi, piquet était là. C'est quoi un piquet de grève ?
Eh bien, tu avais tous les grévistes. Là, il y avait en majorité la CGT. Ils alpaguent un peu le passant.
Et qui d'autre ? Tu dis en majorité, mais donc il y avait qui d'autre ?
Alors, il y avait des salariés qui n'étaient pas à la CGT. Et puis, il y avait aussi le Parti communiste qui était... Il y avait une petite délégation avec notamment Éric Bocquet, le sénateur, et puis Karine Trottin, la fédérale, la secrétaire fédérale du Parti communiste. Puis, une toute petite délégation aussi de la CNT qui était venue passer sur ce piquet. Voilà, il y avait du monde. Et les médias, c'était ça aussi qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'il y avait Libé et il y avait France 3, et c'est rare enfin, il faut le signaler quand même, il y avait les médias.
180 emplois dégagés dans
ce plan de sauvegarde à l'emploi.
Ce plan de licenciement. Voilà. Simplement, il y a un truc qui est assez particulier chez Cargill, c'est que c'est un petit peu comme le reste de la France. C'est-à-dire que c'est essentiellement la CGT qui est en lutte, mais il y a quand même des syndicalistes qui négocient avec la direction, et ceux-là sont de la CFDT.
En gros, vous allez l'entendre dans le reportage, mais ce qu'ils expliquaient, c'est que la CFDT est une jeune organisation dans l'usine, qu'elle représente d'abord et avant tout les cadres, et que le patronat se sert donc de la CFE-CGC et de la CFDT qui, à eux deux, sont minoritaires, à eux deux, et le syndicat majoritaire CGT, représentatif, là, on l'entend dans le reportage, je crois que c'est plus de 60%, qui est donc majoritaire. Elle a décidé de ne pas venir négocier. On comprend de négocier le poids des chaînes, quasiment.
Le prix des chaînes,
Le prix des chaînes, tu vois le truc.
Parce que là...
Ah oui. Parce qu'il s'agit quand même de 183 emplois. Mais on va laisser les gens écouter tout de suite ce reportage.
Puis on en reparlera un petit peu après parce qu'il y a eu des fuites,
Sustainability, strong marketing intelligence, together with innovation,
un reportage de Gros Dada,
and formulation expertise help you thrive. That is what makes us unleashing nature sustainably. That is what will keep us exploring new ideas, new fields of technology, new knowledge for generations to come. We are happy to share our opinions and collaborate with you for a greener future. We are unique. We are Cargill Beauty.
Donc je suis Dorian Valois, donc le délégué syndical, le CGT, le syndicat Cargill-Haubourdin. Donc notre direction, le 21 novembre, nous a annoncé donc, un plan de restructuration, donc un PSE, pour des motifs économiques. Donc ils veulent réorienter complètement l'entreprise. Donc nous sommes 328 sur le site. Donc ils ont annoncé, suite au PSE, 183 licenciements. Ils vont créer 19 postes, donc avec un nouveau contrat de travail, donc nouveaux horaires, nouveaux salaires. Et à la baisse, on imagine bien, tant qu'à faire.
Les nouveaux statuts, quoi.
Voilà. Donc nous sommes à trois organisations syndicales. Donc les deux autres organisations syndicales, n'ont pas appelé à la grève.
Alors pour que ce soit clair, vous êtes à la CGT, vous êtes le délégué syndical.
Voilà.
Et les deux autres, c'est qui ?
C'est CFDT et CFE-CGC.
D'accord. Et eux n'appellent pas ?
Donc eux n'appellent pas. Donc à savoir que un appel au soutien donc à tous les Cargill en France, donc à 14 ou 16 sites, je ne sais plus. Donc un appel général à la grève de 24 heures va être fait dans tous les sites, donc sur toute la France. Il n'y a que, aux dernières nouvelles, il n'y a qu'un site qui ne suivait pas. Donc tous les autres faisaient appel à la grève.
C'est quoi les actions que vous menez ?
Donc le 21 novembre, nous avons fait un appel à la grève donc illimité, donc afin de protéger les salariés. S'ils ont une pression au niveau de leur direction ou quoi, ils peuvent quitter le travail quand ils veulent, ou s'ils n'ont pas le moral ou quoi que ce soit, ils ne sont pas obligés de venir travailler. Donc ça désorganise complètement l'entreprise. Donc voilà, après les gens font le minimum de leur travail quand ils sont sur place. Donc ça occasionne beaucoup d'arrêts. Donc à savoir que le mois de décembre, donc il y a un tiers de production par rapport au décembre de 2018. Donc comme quoi ils ont vraiment un impact économique fort. Et donc là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on appelle à la grève totale avec l'arrêt de l'outil de production. Ce qui est fait, vous voyez, ça, les cheminées ne fument pas. Donc voilà. Donc on espère de tenir plusieurs jours. C'est l'Assemblée des grévistes qui décidera. Hein. Et on veut mettre un impact des touchés économiquement, encore une fois. Donc notre direction, pour l'instant, reste un peu de marbre face à nous. Hein. Donc la dernière Assemblée générale qui a eu vendredi, la direction a voulu rester dans l'Assemblée générale. Les salariés n'ont pas voulu. Ils les ont invités à la direction à sortir. Comme ils n'ont pas voulu, ils ont été mis dehors. Donc gentiment, bien sûr. Hein. Et la direction a porté plainte contre 3 salariés, d'après ce qu'on nos échos.
D'accord. Et vous, vous faites quoi là sur Cargill? Vous êtes dans la production?
Ouais, moi je suis en production, puis je suis élu au CSE.
Et vous?
Et au CSCT. Et au CSCTO également.
Ah, mais alors vous faites partie des employés un peu menacés, un peu...
Bah, on est tous menacés, hein. De toute façon, on est tous menacés potentiellement. Hein. C'est vrai qu'il y a une grande partie qui a déjà été ciblée, on va dire une partie du site, soi-disant la partie du site qui est déficitaire.
Ouais.
Et bon,
soi-disant.
Soi-disant, parce que c'est ce que la direction nous a annoncé, qu'il y avait une partie d'usine qui était déficitaire et donc ils s'en séparaient. Et une autre partie qui était bénéficiaire d'environ 10 millions de dollars par an. Bon, mais n'empêche que même dans ces effectifs-là, ils tapent aussi dedans.
10 millions de dollars, mais ça ne paraît rien face au fait que la famille Cargill est une des plus grandes fortunes.
Ah oui,
pas
bien
fait
sûr.
Partie des grandes fortunes.
Ouais, ouais, ouais. Mais il faut savoir que cette année, on va avoir une participation aux bénéfices.
Ouais.
Hein, parce qu'ils ont, un bilan sur l'alias fiscal à fin mai qui est de 3,5 millions. Donc ils sont dans l'obligation de nous reverser une participation bénéfice. C'est complètement aberrant dans...
Ah oui.
Au niveau où on se trouve là, et on parle de licenciement et en même temps on va toucher de la participation.
Dans le même temps,
en même temps.
Donc il y aura participation au bénéfice, mais en même temps on
voilà, ouais, ouais.
Qu'il y a moins de bénéfices.
Sans compter que c'est une société qui a quand même touché plus de 2 millions d'euros de CICE depuis 2013.
Ah oui.
Donc
on peut
penser, bah, en principe c'est pour aussi sauvegarder l'emploi logiquement. Sauf que je pense qu'ils l'ont utilisé à autre chose, hein, pour les actionnaires certainement.
Oui, effectivement, si on garde l'emploi comme ça.
Through more than 150 years in providing nature-derived solutions in food and nutrition, Cargill grew and evolved along with the needs of consumers around the world. We are happy to share our opinions and collaborate with you for a greener future. We are unique. We are Cargill Beauty.
Je peux vous poser une question? Savoir? C'est savoir si votre emploi est... Vous êtes personnellement menacé par la...
Bah on sait pas exactement si... Non, on sait pas exactement.
Donc vous vivez un peu dans la peur de savoir...
Ouais, bah forcément, ouais.
Ouais.
Forcément. On rumine toute la journée. Dans la famille, c'est pas évident.
Allez. Bonjour. Vous êtes... C'est Radio Campus, on passe au rouge. C'est pour savoir, vous bossez ici à Cargill?
Ouais, je bosse
et
ici.
Et vous faites quoi dans la boîte?
Je suis opérateur en production d'amidon.
Et vous faites partie des potentiellement menacés par ce...
Ouais, ouais.
Vous en pensez quoi, vous, de tout ça, là?
Ouais, je pense qu'on s'est fait berner pendant... On a profité de nous pendant plusieurs années et maintenant, bah, on nous met dehors comme des malpropres, tout simplement.
Et... C'est la première fois que vous participez à une action syndicale, une action de lutte comme ça?
Une grosse comme ça, ouais. J'ai déjà eu quelques grèves ici à Cargill lors des PSE il y a 2 ans et malheureusement on n'a pas pu empêcher le pire et du coup maintenant il faut se battre.
Quelle est l'ambiance dans l'entreprise ces temps-ci avec l'annonce du plan en fait?
Bah, c'est assez malsain, c'est assez bizarre quand même. Surtout qu'ils ne suppriment pas tous les postes, ils suppriment la moitié, ils coupent l'usine en deux. Donc ils essayent de nous diviser, mais comme vous pouvez le voir, on est assez soudés et on essaye de rester soudés le plus possible pour être tous ensemble. Il y aura des sacrifices à faire pour ceux qui sont potentiellement pas licenciés, même si ils ont annoncé un chiffre, mais on ne sait pas vraiment qui va être licencié.
Donc Éric Bocquet, vous êtes sénateur du Nord,
oui.
Du Parti communiste.
Oui.
Et c'est quoi le sens de votre présence ici sur ce
J'étais venu rencontrer les salariés le 5 décembre dernier, au début du mouvement. Ils m'avaient expliqué exactement la situation. Et après ça, j'avais adressé un courrier à Bruno Le Maire, le 9 décembre pour exposer la situation, bien sûr, et saisir Bercy pour demander qu'une expertise indépendante soit menée sur la réalité de la situation économique de ce groupe. Parce qu'on voit bien qu'on est en face d'une stratégie du groupe Cargill. Alors Cargill, c'est pas un petit joueur, Cargill. Présent dans 70 pays dans le monde, 155 000 salariés. Ils ont fait un trait sur le site d'Aubourdin, c'est évident. Parce que dans le même temps qu'ils ferment ici, qu'ils veulent fermer ici, réduire l'emploi ici, ils viennent de racheter la chocolaterie Smet en Belgique. Ils viennent d'investir dans une usine au Brésil pour 150 millions de dollars et une autre en Chine pour 110 millions de dollars. Donc il y a une offensive d'investissement à l'échelle du monde. Et donc ici, le site d'Aubourdin les ennuie. Ils ont fait une croix dessus, donc c'est tout à fait inacceptable quand on connaît les conséquences qu'auraient sur les salariés les suppressions de postes, conséquences humaines, sociales, économiques et pour l'ensemble du territoire aussi, qui continue à se désindustrialiser depuis maintenant des décennies. Donc démarche inacceptable, donc démarche de soutien. Être présent ce matin, c'est d'abord les soutenir et puis apporter l'aide qu'on peut apporter en matière d'intervention auprès des ministères concernés, des autorités, etc.
Qu'est-ce qu'il en dit, Bruno Le Maire ?
J'attends sa réponse.
Avec impatience ?
Avec impatience, mais les courriers dans les ministères, maintenant je les envoie systématiquement en recommandé à Accusé réception, parce que j'ai remarqué au fil des années qu'ils ont la fâcheuse habitude de ne jamais recevoir les courriers, de ne jamais les retrouver, de ne pas avoir trace, etc. etc. Donc maintenant, j'envoie systématiquement en AR, accusé réception. J'ai reçu l'accusé réception. Donc j'ai demandé à mon secrétariat de reprendre contact avec Bercy, le cabinet de Bruno Le Maire, pour savoir quelle réponse il comptait nous faire sur ce sujet.
Et plus localement, sur un autre élu, c'est le maire de la commune. Vous êtes un élu des grands électeurs, etc.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils en pensent ici, les élus locaux
Je crois que le maire, M. Béharet, le nouveau maire de Bourdin, a exprimé son soutien. Il a même participé, il me semble, à une manifestation à une époque. Enfin, j'ai pas eu de contact particulier avec lui. Ouais. Mais voilà, la municipalité, comme tout le monde, a tout lieu de s'inquiéter de cette situation et de ne pas l'accepter. Parce que d'abord, c'est sa ville. C'est d'abord des situations humaines, d'abord et avant tout. C'est aussi des conséquences sur le budget de la commune, c'est des recettes en moins, voilà, qu'on le veuille ou non, mécaniquement, par les taxes foncières que l'usine paye au budget de la ville. Il y a des enjeux, importants pour la ville, évidemment. Et donc tout le monde a intérêt, quelle que soit sa sensibilité, à se mobiliser pour empêcher cette situation.
C'est quoi la revendication principale de ce mouvement là
C'est la suppression de ce projet de 183 postes de supprimés. Voilà.
Ouais. Ouais.
C'est la principale revendication de la CGT. On a maintenant, depuis quelques temps, un autre syndicat, la CFDT, mais ils n'ont aucune proposition claire. Et pour l'instant, ils sont sur l'accompagnement des licenciements et c'est pas suffisant pour nous.
Au niveau du CSE, parce que vous êtes directement en contact avec la direction.
Tout à fait, oui.
Vous en êtes où dans cette discussion ?
En fait, au niveau des discussions, on n'a pas avancé suffisamment par rapport à ce que nous, on aurait souhaité. À l'instant aujourd'hui, où on se parle, on est en réunion, on va dire, c'est la troisième réunion qu'on fait officielle sur les discussions, sur les négociations, sur le plan. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques éléments sur lesquels on a avancé. C'est juste uniquement les durées sur lesquelles ils veulent bien augmenter en termes de délai de réflexion, par exemple, ou de délai de dépôt de candidature, uniquement sur ces points-là. Sinon, tout le reste, à l'instant T, on n'a absolument encore rien abordé. Donc, ils ont uniquement abordé les questions de prime de licenciement, etc., uniquement avec les délégués syndicaux. Mais comme nous, on a donné notre position sur laquelle on ne négocierait pas sur un plan de licenciement, à aujourd'hui, les négociations se font uniquement avec la CFDT et la CFE-CGC.
Et en termes de représentation, la CGT, la CFDT, CFE-CGC, c'est quoi en termes de pourcentage, en termes de...
Alors nous, en termes de représentativité, on est à 63% sur les dernières élections CGT. CFDT, à l'heure actuelle, ils ont fait 29%, et la CFE-CGC, 6%.
Mais attendez, mais ça ressemble à la stratégie mise en place au niveau national sur les retraites.
Exactement.
On a les syndicats réformistes qui négocient en lieu et place du syndicat majoritaire.
C'est exactement ce qui se passe. On est complètement en phase avec ce qui se passe au point de vue national.
this exciting journey, Natre led us to create Cargill Beauty, an influential personal care unit, always on the lookout for tomorrow's trends, being able to support ingredients challenges of personal care brands by unleashing nature sustainably. We are unique. We are Cargill Beauty.
Cargill Beauty, mon cul, il faut voir la gueule de l'usine et puis l'odeur qu'il y a autour.
Quand même. Et puis on les salue d'ailleurs, les grévistes de Cargill. Et tu voulais rajouter quelque chose, je crois, Seb?
Bah oui, on peut signaler quand même que lors de la manifestation de ce jeudi, le 16 janvier, plusieurs manifestants en fait ont été interpellés par les forces de l'ordre. Il faut dire qu'on ne vous passe pas des sons de la manif de jeudi, on en a plein, mais on n'a pas le temps. Hein. Mais ouais, il y a tellement de choses dans ces périodes de mouvement social. Et donc là, il y a un manifestant de Cargill qui a passé du temps en garde à vue. Mais surtout, ce qui est important, c'est de parler d'un des collègues des salariés de Cargill, le dénommé Greg, qui se retrouve là dans une situation particulièrement difficile, puisqu'il est aujourd'hui dans une situation où il... je cherche mes mots, où il se retrouve en fait en mise à pied conservatoire, pour une durée de 15 jours, je crois, d'après nos informations d'aujourd'hui, et que... la direction donc le convoque pour ce qu'on appelle un entretien préalable au licenciement. Et tout ça, pourquoi les faits qui sont reprochés, c'est tout simplement que lors d'une assemblée générale interne à Cargill, ce salarié a invité le directeur qui voulait absolument participer à l'assemblée générale contre l'avis de l'assemblée générale à sortir de ce lieu. Voilà, donc on en saura plus concernant ce Greg, mais en tout cas sachez que les salariés de Cargill sont très mobilisés pour leur camarade Greg. Je suis Greg, arbore-t-il en ce moment même.
Et on vous tiendra au jus de ce qui se passe à Haubourdin pour les Cargill, voilà. Radio Campus Lille, disponible en DAB+. C'est pas tout, l'activité et le mouvement social ne s'arrêtent jamais. Jean-Jacques, toi tu es parti, je ne sais plus quel jour, dans cette AG. C'était jeudi et c'était à l'AG des étudiants.
Donc on a du son de jeudi quand même.
Ouais, on a du son de jeudi.
C'était où ?
Plusieurs sons de jeudi. Alors c'était à la fac de Lille 3, dans un petit amphi, une centaine de personnes, une centaine d'étudiants et de professeurs et de représentants des cheminots en lutte.
On est dans le quartier de Moulins.
Non, on est sur la fac de Lille 3.
Ah, Lille 3, pardon, c'est à Villeneuve-d'Ascq.
Hein. Oui, tout à fait.
Entre Villeneuve-d'Ascq et Mons, ouais.
Voilà, les quelques jours précédents, il y avait des AG enseignantes bien représentatives qui avaient voté la grève. Et là, on va entendre comment on s'organise, des passages dans les amphis, des actions culturelles, des formations alternatives et plein d'autres idées comme ça.
Bravo pour faire les tours d'amphi et pour tracter le matin. Moi, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une AG aujourd'hui. Et deuxièmement, je voulais dire que j'ai appris ça cette semaine par un camarade qui est étudiant en histoire de l'art à Paris. C'est que le gouvernement a pour projet de faire disparaître le statut de maître de conférence. Et je pense que ça serait bien qu'en tant que mob, on en parle parce que ça va nous impacter, ça.
Très contente parce que je vois plus de profs avec nous. Il n'y a pas que les étudiants en fait durant les années, ce qui est bien. Certes, il y a moins d'étudiants que prévu, mais c'est pas grave. On doit continuer à se mobiliser. On doit essayer en fait de faire les tournées d'amphi comme les camarades ils l'ont dit, de tracter plus, d'être plus en plus organisé. Parce que malheureusement en fait durant les manifs, on n'est pas très très bien organisé. Et par exemple pour le cortège de jeunesse, t'as les camarades en fait qui vont se retrouver dans d'autres cortèges. Du coup le nôtre en fait il est inexistant parfois et ça doit pas être le cas. Après, je tiens en fait à préciser que nous, la génération de demain, on est vraiment touchés par cette réforme. Le fait en fait qu'on est discriminé non pas seulement par notre âge, mais par nos années en fait d'études qui sont pas comptées dans la réforme de retraite. La plupart de nous en fait, c'est sûr qu'on va faire plus que 5 ans d'études, et malheureusement c'est pas compté à l'intérieur de la réforme. On est obligés tous de faire à un moment donné des stages qui vont durer 2 mois, et c'est pas compté dans la réforme de retraite.
Le fait qu'on massifie sur les facultés, puis qu'on occupe et qu'on bloque, c'est une première étape. Et après, l'étape suivante, ce sera que les étudiants aillent avec les autres travailleurs mobilisés sur l'ensemble des entreprises et des administrations, enfin partout, quoi, pour faire reculer le gouvernement.
Demain, pour ceux qui peuvent, on peut peut-être se retrouver à 14h dans le hall pour justement aller faire des tournées d'amphi, quoi. Donc on pourrait dire 14h dans le hall du bâtiment A pour faire des tournées d'amphi et que justement ça soit tout le monde qui prenne la parole. D'ailleurs, étudiants, et non étudiants, moi je pense, mais bon ça, ça serait peut-être à discuter, quoi, mais moi je serais pour. Et puis même surtout militants habituels ou militants de la grève, quoi. Que là, ça soit le moment où on exprime tout ce qu'on a exprimé, quoi. Et que tout le monde le fasse. Et si on est 10 à faire des tournées d'amphi et qu'on prend à 10 la parole pour dire 10 choses différentes, eh ben tant mieux. C'est ça qui est riche, c'est qu'on se mette à discuter, c'est qu'on se mette à avoir des arguments, c'est qu'on pose tous nos problèmes sur la table.
Là, aujourd'hui, c'est les professeurs qui vont venir nous soutenir, c'est les professeurs qui nous laissent les temps de parole et c'est les professeurs qui vont venir nous filer un coup de main pour argumenter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme on l'a tous déjà dit, on a raison. Et on a raison de se battre contre cette réforme. On a raison de se battre en soutien aux cheminots. Mais les cheminots, même si ça fait 40 jours qu'ils sont en grève et que c'est historique ce qu'ils sont en train de faire, ils gagneront pas sans nous.
Vous parlez de venir demain à 14h dans l'amphi A pour passer dans les différents amphis et propager la parole. Est-ce que ça vous intéresse là ?
Bah, personnellement, oui, mais si j'ai des trains, je pourrais venir. Si j'ai pas de train, bah, ça sera un peu compliqué, on va dire.
Là, c'est pareil pour moi.
C'est pareil ? Il aurait fallu demander aux cheminots qui étaient là ?
Un petit peu, oui.
Non, je suis pas totalement au courant des gros points sur la réforme. Je sais si ça touche qui et pourquoi il y a de plus en plus de grèves. Maintenant, je pense qu'il y a une peur de la manifestation, en fait. Surtout par rapport, je pense, aux bavures qu'il y a sur les manifestations.
Oui. Alors, passer dans les amphis pour aller convaincre les gens, ça vous intéresse ?
Ouais, beaucoup.
Vous intervenez dans les amphis, vous allez à la rencontre des étudiants non grévistes, c'est-à-dire la grande majorité ici ?
Alors non, parce que déjà, je ne me sens pas le courage, donc c'est un peu difficile. Et je remercie les gens qui le font, parce que... ils font porter la parole assez bien. Enfin, en général, je trouve que c'est très galvanisateur qu'ils viennent dans les amphis. Et je pense que je peux aider autrement. Il y a plein de façons de se mobiliser, de toute façon. Et déjà, venir grossir les rangs dans les manifs, c'est une très bonne façon de commencer à se mobiliser, je pense.
Et après avoir rencontré des étudiants de l'île 3, tu as quand même rencontré...
Dans la manif.
Dans la manif,
de jeudi.
Qu'on rencontre pas souvent.
Des gens du privé. Il y a des gens du privé.
Même des libéraux, vas-y, c'est qui ?
Alors c'était dans la manif du 16, mais en fin de cortège, hein, c'était très différent de l'avant du cortège.
C'était
plutôt très calme. Hein. Et il y avait des orthophonistes qui, comme beaucoup d'autres libéraux, je l'ai appris après, vont voir leur cotisation retraite monter en flèche de 14% à 28%. Voilà pour les libéraux. Pas tous. Un petit détail, seulement pour les petits, les orthos, les médecins, les avocats, les petits revenus de ces catégories-là. Parce qu'au-dessus d'un certain chiffre d'affaires annuel, 40 000 euros, donc c'est pas énorme, et bien là, leur taux de cotisation passe à 12%. Voilà. Donc les petits payent 28% et puis...
Leur taux de cotisation.
Leur taux.
D'accord, pardon.
Beau jeu de mots.
Ah, merci, je...
Voilà, on écoute sa chose.
Vous êtes orthophoniste, c'est ça ?
Exactement, en libéral.
D'accord, et vous avez une revendication particulière, on dirait ?
Eh bien oui, au niveau de nos charges retraite.
Les cotisations.
Voilà, les cotisations retraite vont passer de 14 à 28%, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Et donc c'est un vrai problème pour notre salaire, en fait, qui est déjà bien diminué par nos charges URSSAF, Carpinko. Et donc là, ça renchérit encore plus, donc ça devient compliqué pour pouvoir gérer un cabinet en libéral.
Sans pour autant avoir une amélioration de nos retraites.
Bah, c'est surtout qu'en plus, on est un régime qui est autonome, donc là, on nous fait passer dans le régime général, alors qu'on est déjà solidaire par rapport au régime général, puisqu'il y a une partie de nos cotisations qui va pour le régime général. Donc Macron a l'excuse de nous dire c'est pour être plus solidaire, mais en fait, on l'est déjà actuellement.
D'accord.
Voilà.
Là, en l'état actuel, sans la réforme, on doit déjà mettre 50% de côté pour payer nos cotisations. Et là, si la cotisation retraite double, alors soit ça va être un déconventionnement, c'est-à-dire que voilà, on sera plus conventionné avec la CPAM et du coup, ça va creuser les inégalités parce qu'il n'y aura que les riches qui pourront venir se soigner. Soit on ferme le cabinet quoi, et on passe dans les structures, mais il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. L'idée aussi, c'était d'avoir le libre choix d'exercice.
Ouais.
Il y a très peu de structures publiques qui regroupent des orthophonistes.
Elles ferment toutes, elles manquent de moyens et elles manquent d'orthophonistes aussi.
Avec cette réforme, vraiment, c'est plus possible de tenir un cabinet, finalement. C'est les professions indépendantes, quoi, libérales. Voilà.
Il n'y a pas que la vôtre qui est concernée.
Oui, il y a les kinés aussi, les orthoptistes,
les infirmiers, les ergos,
les podologues.
Ouais.
Ouais. Bah, tout le corps paramédical en fait.
Très peu mobilisés les autres. Là, bon, vous êtes 3-4, mais
bah,
finalement, on ne voit pas grand
monde. Bah, en fait, c'est compliqué pour les gens de venir aux manifestations parce que, bah, par exemple, nous, on a dû annuler notre journée de travail pour venir à la manifestation, mais finalement, c'est une perte financière assez.
Un peu comme tout le monde ici.
Bah, ça dépend parce que quand on est salarié, au final, on touche quand même le salaire à la fin du mois. Le même, nous, on est payé à l'acte.
Ah bah non, ceux qui font grève, ils ne touchent pas leur salaire à la fin du mois. Les cheminots qui ont un mois de grève, ils ne vont pas être payés du tout.
Ouais. Je trouve que là, depuis une semaine, ça commence vraiment à bouger au niveau de notre profession. Il y a vraiment une prise de conscience. Et moi, je suis, par exemple, j'ai pris un peu conscience de la gravité de cette réforme assez récemment, je dirais. J'étais pas forcément présente aux premières manifestations parce que je m'en suis pas aussi donné les moyens. Mais voilà, petit à petit, les gens prennent conscience un peu de la gravité de cette réforme et ça va mobiliser certainement beaucoup plus de monde, je l'espère, d'ici les prochains jours et d'ici les prochaines manifestations.
Vous êtes un peu dans un désert syndical, vous n'avez pas de représentation syndicale, j'imagine.
Alors on a un syndic, enfin ouais, on a un...
La
FNO. Ouais, la FNO, donc la Fédération Nationale des Orthophonistes, qui sont en pourparlers, et eux, à un moment donné, avaient fait un communiqué en disant que qu'ils trouvaient que cette réforme était plutôt favorable pour les orthophonistes. Donc voilà, on était tous un peu interloqués.
Oui, donc en fait, ceux qui vous représentent finalement ne vous défendent pas. À quand la CGT orthophoniste alors?
Bah, pas pour tout de suite, je pense.
Ouais, pas pour tout de suite.
Merci, voilà. Bonne manif.
Merci. Au revoir.
Cette chanson s'adresse à tous mes amis du gouvernement de la République En Marche. Putain, les gars, les CRS qui butent des vieilles ou des mecs en fauteuil, vous leur filez des médailles. Les gosses qui vont dans la rue, oui, au lieu d'aller à l'école pour dire qu'on a trop chaud pour la saison, vous les foutez en tôle. Tous les ans, vous commémorez ceux qui planquaient des juifs et puis là, ceux qui planquent des nègres. Vous leur bourrez le pif, vous dites qu'il faut faire la chasse à ceux qui bossent pas, alors que putain, leur boulot, vous le vendez vous-même aux Chinois. Mais moi j'ai confiance, je sais que vous nous aimez. Je suis sûr qu'avec vous un jour tout peut s'arranger. Et si vous augmentez l'aide au logement pour les parlementaires, ça prouve bien que même pour eux la vie elle est de plus en plus chère. Non moi j'ai trop confiance. Par contre c'est vrai que les gars, dès qu'on vous donne un peu de pouvoir, vous allez même plus aux putes, vous vous enfilez des petits noirs. Pour une église un peu cramée, vous avez plus de chagrin que pour un bled qui se fait gazer. Au moins c'est sûr, vous êtes chrétien. Vous dites qu'il faut du glyphosate pour bien nourrir la populace. Mais du coup, résultat, quoi qu'on bouffe, on a la chiasse. Pareil que pour pas crever, il va falloir changer de système. Mais vu tous les hostos qui ferment, on va sûrement crever quand même. Mais moi j'ai confiance, c'est vous les meilleurs. Notre bonheur est au cœur de vos priorités majeures. Et si là les CRS ils se mettent à casser du pompier, quelque part ils ont raison, y'a eu trop d'incendies cet été. Non moi j'ai confiance, nanana nanana, nanana nanana, nanana nanana, nanana. Et tous ceux qui gueulent qu'on n'est plus en démocratie, eh ben ça sera de leur faute si gueuler ça devient interdit.
C'était Didier Super, c'est vous les meilleurs. On passe au rouge, chaque lundi de 19h à 20h sur Radio Campus en 6,6. Et on retrouve Hugo Paglietta. Hugo Paglietta, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille et chercheur au CRESPA CSU. Vous êtes également directeur de publication de la revue Contretemps.eu et vous êtes l'auteur de cet excellent ouvrage paru aux éditions La Découverte, La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre. Alors tout d'abord, en parlant de trajectoire du désastre, on le voit, l'État et sa police répriment durement le mouvement social. Ça vous inspire quoi, à vous, cette répression ?
On a assez clairement une dérive autoritaire des gouvernements qui se succèdent en France depuis un moment. Je dirais que le point de départ, c'est autour de 2014, 2015, 2016, hein, sous Hollande et Valls, et Macron d'ailleurs, qui à mon avis s'explique assez naturellement par l'étroitesse de la base sociale de ces gouvernements, hein. C'est comme ils ont de moins en moins de base sociale sur laquelle s'appuyer, ils sont de plus en plus amenés à recourir pour faire passer des projets de réformes illégitimes qui apparaissent illégitimes à la population, à recourir à la force organisée, c'est-à-dire à la répression d'État, hein, à la coercition, comme dirait Gramsci, plutôt que à la production du consentement, puisque ça ne consent plus dans la population, en tout cas dans une grande part de la population, ce que montrent d'ailleurs les sondages de popularité du mouvement social actuel. Eh bien,
il faut taper dessus.
Il faut recourir taper. À la force.
Et c'est ça le fascisme aujourd'hui ? C'est ça que vous dites ? C'est pas ça.
Alors, ouais. Alors évidemment, on peut être amené, et je le défends dans le livre, à penser que tout ça prépare des pouvoirs encore plus forts. Le fascisme, sur le plan sécuritaire ou autoritaire, c'est la destruction même de tout espace démocratique, de toute forme de toute organisation indépendante de l'État, de type syndical, politique et même associative, de toute pensée critique. Bon, on n'en est évidemment pas là, et heureusement, parce qu'on n'y est pas préparé. Hein, il y a encore des manifestations qui peuvent s'organiser. Mmh. Alors évidemment, hein, l'État cherche... Le gouvernement cherche de plus en plus à en restreindre la portée. Hein. On avait vu une manifestation qui commençait à Place d'Italie, qui a été interdite au moment où elle devait démarrer, par le préfet.
Place d'Italie, en effet, on avait un reportage sur place.
Mais en tout cas, bon, nos organisations, par exemple, n'ont pas été ni interdites. Les organisations syndicales, politiques, associatives de gauche radicale d'État n'ont pas été interdites ou détruites, même physiquement.
La CGT est toujours légale en France,
La CGT,
malgré le point.
Les organisations d'extrême-gauche, elles ne sont pas... Donc on n'est pas en régime fasciste. Par contre, on peut tout à fait penser que le recours à des pratiques de plus en plus autoritaires, de plus en plus intensives, hein, de répression... banalise en quelque sorte l'usage que les fascistes sont à même de faire de la force d'État une fois qu'ils parviennent au pouvoir. Donc Macron, c'est pas un fasciste, c'est quelqu'un, un fasciste, mais c'est quelqu'un qui assurément, et comme Hollande et Valls précédemment, peut tout à fait préparer le terrain au fascisme.
Oui, et moi je voudrais vous, parce que vous parliez de nos organisations, elles sont souvent qualifiées et mises sous le terme de populisme, qu'ils soient nous de gauche, mais également de droite. C'est quoi ce terme, à quoi il sert ce terme populisme ?
Est-ce qu'il y a une vraie alliance entre la France insoumise et le Rassemblement national ?
Non, évidemment, il y a, de mon point de vue, alors je ne suis pas la France insoumise par ailleurs, hein, mais... quand je disais nos organisations, c'est vraiment dans un sens large. Hein. Par exemple, moi, je suis adhérent à la CGT, mais bon, au-delà de ça, ça pourrait être d'autres syndicats ou d'autres organisations politiques. Hein. Alors, le populisme, c'est un concept écran, je dirais. C'est un concept qui fait écran à la réalité des projets politiques. Je trouve qu'il ne permet pas, pour ce qui me concerne, de saisir pleinement la nature des extrêmes droites contemporaines, qui pour moi sont des organisations, pour la plupart d'entre elles en tout cas, néo-fascistes, au sens où elles renouvellent le projet politique fasciste fondamental. On pourra en discuter sur ce que j'appelle fascisme juste après, et surtout elles agglomèrent dans un même concept des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc le populisme permet de mettre Mélenchon effectivement et Le Pen dans le même sac, Bernie Sanders aux États-Unis et Donald Trump, Viktor Orban en Hongrie et je sais pas moi, Tsipras en Grèce. Bon, vous voyez, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes projets, les mêmes pratiques quand ils sont au pouvoir, pour ceux qui y sont, et qui par ailleurs permet de les délégitimer, hein, de délégitimer d'ailleurs les forces de la gauche radicale en particulier, en disant finalement ce sont aussi des populistes, ce qu'ils veulent c'est abolir la démocratie et ce genre de choses. Et puis ça permet aussi incidemment à des gens comme Macron, typiquement, hein, ou Obama, par exemple, hein, dans une autre époque aux États-Unis, il y a quelques années, disons, ça permet de reporter sur l'extrême droite, sur les populistes, en l'occurrence, ou l'extrême droite et ou la gauche radicale, d'ailleurs, qui sont tous les deux donc qualifiés de populistes, ce qui ferait danger pour la démocratie, qui constituerait un danger pour la démocratie, alors même que ce sont eux, bon, Macron en particulier, en ce moment, qui mènent des politiques autoritaires. De la même manière sur la question des migrants, ce sont bien eux qui, depuis des années, mènent des politiques qui rendent de plus en plus difficile le séjour des migrants, l'accueil des migrants, etc. On peut penser à la loi asile immigration, hein, qui a durci les positions en vigueur en matière d'accueil des migrants. C'est pas l'extrême droite qui est actuellement au pouvoir. Et c'est certainement pas non plus la gauche radicale. Hein, donc ça permet d'une certaine manière de dire ce sont les populismes, et en quelque sorte, d'ailleurs, derrière, ce sont les peuples, parce qu'à la racine du mot populisme, il y a peuple, et donc ce sont les peuples qui sont responsables, en quelque sorte, des dérives autoritaires ou des délires xénophobes et racistes, alors même que, par exemple, pour ce qui est du racisme anti-migrant ou même de l'islamophobie, ce sont typiquement des racismes d'en haut, des racismes qui ont été largement construits depuis les années 80 par en haut, c'est-à-dire par les élites politiques, hein, intellectuelles, médiatiques, hein, qui ont, si on prend l'islamophobie, vraiment produit et alimenté et diffusé ce venin au sein de la société française, par exemple.
Et c'est quoi? Ils habituent la masse à vivre, à évoluer dans un monde, on va le dire, un peu raciste, ou raciste, carrément raciste, c'est ça? Ça prépare un peu le terrain, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure.
D'abord, ils profitent, quand on réfléchit au racisme, il faut d'abord préciser que le racisme, c'est pas simplement un discours au-dessus des pratiques ou... c'est d'abord un système, un système qui infériorise, qui discrimine des populations entières, des millions de gens qui vont subir des discriminations, par exemple sur le marché du travail, sur le marché du logement, etc. Et en fait, le racisme est donc présent de manière structurelle dans les sociétés occidentales en particulier, et dans la société française, si on prend cet exemple-là. Et d'une certaine manière, les gouvernements utilisent ça, prennent appui en quelque sorte sur ce système raciste qui existe à travers une multiplicité de pratiques. Ils produisent un discours qui va effectivement permettre de, alors par exemple pour Sarkozy, ça a été ça, hein, de gagner l'assentiment d'une partie de la population française qui a priori serait sans doute défavorable à son programme économique et social, mais qui peut se retrouver sur l'appel à nettoyer les quartiers au Karcher, comme disait Sarkozy, etc. Bon, donc c'est un moyen de produire en quelque sorte du consentement ou de consentement aux politiques qui sont menées au gouvernement en changeant le terrain, en passant sur le terrain en quelque sorte identitaire, nationaliste, là où sur le terrain économique et social, il est assez évident que les populations sont rétives, voire de plus en plus rétives à la potion néolibérale qu'on cherche de force à leur faire assimiler, quoi.
Oui. Oui, vas-y, Seb, tu voulais...
Oui, est-ce que... Il y a un mot qui apparaît là depuis quelques mois, c'est le mot de démocrature, prononcé par des gens qui ont conscience qu'on n'est pas en dictature, mais qu'on n'est pas tout à fait en démocratie. On aimerait bien savoir ce que le sociologue que vous êtes pense de ce mot et du sens qu'il y a derrière. On parle aussi d'oligarchie. Voilà, dites-nous un petit peu quelles sont les définitions, quels sont les sens que vous mettez derrière ces mots.
Je pense que démocrature, c'est pas un mauvais mot pour justement... insister sur le fait que on n'est pas dans une dictature ouverte de l'État ou des gouvernements contre la population au sens de pratique à proprement parler dictatoriale. On est sur des pouvoirs autoritaires qui s'appuient sur un suffrage populaire mais qui est largement disons conditionné par l'appareil médiatique mais aussi qui est par ailleurs est très limité par les modes de scrutin, hein. On sait que premier tour Macron a fait son assise sociale dans la société c'est à peu près 24% et encore les sondages à l'époque montraient que 50% des gens avaient voté pour lui pour éviter un second tour Fillon-Le Pen. Et il se retrouve avec une des plus vastes majorités parlementaires de la Ve République.
Oui.
Bon.
Oui.
Alors même que son projet semble manifestement très minoritaire dans la société française. Bon. Donc voilà, donc ça permet de pointer en fait à une dérive autoritaire et oligarchique, effectivement, on pourrait le dire, des démocraties représentatives, en particulier la Ve République, qui a toujours été très éloignée des standards démocratiques minimaux, par ailleurs, hein, depuis 58, hein, depuis sa fondation.
Mais Hugo Paletta, si c'est pas les néolibéraux et En Marche, le fascisme, comme vous dites, c'est qui? C'est le Rassemblement National? À quoi il sert le RN là-dedans et l'extrême droite?
À quoi il sert? En tout cas, il est présent et je pense qu'il n'est pas tout à fait
impossible aujourd'hui, en tout cas c'est plus du tout une hypothèse abstraite comme ça pouvait l'être encore il y a 15 ans, hein, de s'imaginer que les forces d'extrême droite, puisque de toute façon c'est déjà le cas dans certains pays, au Brésil, en Inde et en Europe, en Hongrie, en Pologne et puis il y a quelques mois encore en Italie, que les forces d'extrême droite s'emparent du pouvoir d'État.
Mais alors, est-ce que finalement le rôle du Front National, Rassemblement National, ne serait pas de créer les possibilités à un pouvoir comme ça libéral d'avoir une, de s'installer malgré une assise électorale très faible ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, en gros, s'il n'y avait pas le FN, il ne serait pas au pouvoir.
C'est une partie du tableau, évidemment. Je veux dire, c'est l'évidence que les gouvernements et les partis de ce que j'appelle dans le bouquin, et je ne suis pas le premier, d'extrême centre, hein, type Macron, hein, utilisent le danger réel que représente l'extrême droite pour se faire élire confortablement. Alors, faisons remarquer que ce confortablement est de moins en moins confortable. 82% Chirac en 2002, 64%, 66% pour Macron en 2017, et a priori, si on suit les sondages d'opinion pour ce qu'ils valent, pour 2022, il semblerait que s'il y avait un deuxième tour Macron-Le Pen, la marge entre les deux serait beaucoup plus réduite. Et du coup, il devient... Effectivement, eux, ils jouent leur partition, l'extrême-centre. Ils l'utilisent comme un espèce d'épouvantail. Ça, tout le monde le voit, ou de plus en plus de gens le voient. Ils utilisent comme épouvantail l'extrême-droite pour se faire élire. Mais c'est une partie du tableau. Parce que c'est pas parce qu'ils l'utilisent que ça ne constitue pas un danger réel. ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le panneau, hein, ce que je dis. Ça, simplement, ça n'annule pas ce qu'est l'extrême droite en elle-même et le type de projet politique qu'elle porte.
Oui. Hugo Paglietta, vous êtes sociologue, mais vous êtes aussi un militant. Là, c'est aux militants que je m'adresse. On va se retrouver. Là, il y a des élections municipales. Puis, il y a tout le temps des élections dans ce pays. A fortiori, l'élection présidentielle. On se retrouve presque systématiquement maintenant coincé à voter pour le macronisme ou pour le capitalisme, ou bien s'abstenir, ou bien voter le Front National. Quel est le conseil que le militant peut donner à nos auditeurs ? Est-ce qu'il faut encore voter Macron contre Le Pen ?
Alors pour moi, c'est une question totalement tactique. C'est absolument pas une question de principe. C'est une question de tactique électorale. Et cette question-là se pose pas de la même manière en 2002, en 2017 et potentiellement en 2022. Donc je propose qu'on se la pose si on est amené à se la poser, si on est condamné à se la poser, parce que c'est comme ça que je vois la chose. On est parfois condamné à se poser des questions tactiques de ce type-là. Mais je pense qu'il faut absolument pas justement focaliser toutes nos réflexions autour de ça, parce que c'est un enjeu tactique auquel effectivement on pourrait être condamné en 2022 comme on l'a été en 2017 et sur laquelle la gauche ou les électeurs de gauche de France Insoumise, du NPA, des Verts, est-ce qu'ils étaient présents, je me souviens plus. Non, ils n'étaient pas présents. De Hamon ont pu être amenés à une question qu'ils ont pu être amenés à se poser. À mon avis, il faut se la poser davantage en termes stratégiques. C'est-à-dire, comment on fait pour ne pas être condamné à cette fausse alternative désastreuse, mortifère, entre l'extrême-centre néolibéral et l'extrême-droite néo-fasciste. La question, c'est comment, du coup, on fait émerger un troisième espace, puisque fondamentalement, la politique contemporaine va tourner dans les années à venir autour de ces trois espaces, de ces trois pôles, l'extrême-centre néolibéral, autour duquel Macron a réussi à réunir des néolibéraux de droite et des néolibéraux de gauche, entre guillemets, l'extrême-droite, qui est très forte au plan international. Et puis, est-ce que la gauche, la véritable gauche, la gauche de gauche, peu importe comment on l'appelle, la gauche radicale, anticapitaliste, peu importe, est capable de faire émerger un pôle à peu près cohérent sur le plan politique, intellectuel, idéologique, et de constituer une alternative de pouvoir? Bon, c'est ça, fondamentalement, ce qu'il faut réussir à se poser. Et là, du coup, se posent toutes les questions. Bon, quelle stratégie pour changer les choses, pour engager une transformation sociale, écologique, démocratique, etc. Quel type de programme à défendre? Quelles alliances? Quelles organisations? Bon, toutes les questions politiques, proprement politiques. Bon. Et ces questions, il faudrait idéalement que la gauche, ou les gauches plutôt, soient en capacité de se les poser avant qu'on soit condamné à cette fausse alternative désastreuse qui est l'alternative entre Macron et Le Pen. Quoi.
Ah, bien sûr.
Donc je botte un peu en touche si vous voulez, mais parce que je pense qu'il faut botter en touche. Hein, il faut ne pas se condamner à se demander pour qui on va voter au deuxième tour en 2022. Et la question d'ailleurs, c'est, je crois que la première lutte antifasciste immédiate, c'est de gagner contre le gouvernement actuellement.
Ah oui, via le mouvement social.
Le combat social actuel est d'une certaine manière un combat aussi antifasciste. Parce qu'il peut faire émerger une alternative au capitalisme néolibéral qui précisément fait le jeu du fascisme.
Eh bien, on va devoir vous laisser sur,
merci,
sur
Hugo Paglietta.
Sur ça, merci beaucoup. Et je rappelle que votre livre est aux éditions La Découverte, la possibilité du fascisme. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Merci. On passe au Rouge, une émission que t'écoutes quand tu veux en podcast sur campuslille.com. Et tout de suite, on retrouve Massy et sa chronique.
Massy, reviens dans la partie.
Aujourd'hui, pour ma chronique, je reviens avec un sujet plutôt controversé. Un sujet que je ne pensais pas aborder un jour, finalement. Je vais vous parler des blessures de manifestation. Je vous entends déjà penser de chez vous « Oh là là, on va encore parler des gilets jaunes !» Ou encore « Vous, les gauchistes, vous parlez que de la violence de la police, alors que les policiers violents sont une minorité et ils ont une âme !» Ou pire, « J'ai vu sur BFM TV, la police ne frappe que les manifestations violentes et dangereuses pour la nation. » Je vous arrête tout de suite. Déjà, à partir du moment où pour vous, regarder BFM TV est un argument de fond, vous ne méritez que d'être amputé de votre droit de parole. Non, aujourd'hui, je ne vais pas donner du grain à moudre au réac. Je veux parler des blessés, car ils sont nombreux, mais aussi du pouvoir. Les violences et les blessures montrent bien deux choses. D'abord, que Macron et son gouvernement ont les chocottes. Puis, que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont totalement déconnectés de la réalité. Comme le disait Kerry James dans son son racaille, entre nous et la rue, il y a les CRS. On parle de plus en plus de blessés dans manifestations, certes, mais c'est aussi parce qu'il y en a de plus en plus. C'est devenu banal de se faire gazer jusqu'à voir des groupes de personnes faire des crises d'asthme ou avoir du mal à reprendre leur souffle. C'est devenu banal de voir des vieilles dames en sang, des gens qui boitent, des attelles, des béquilles, des plâtres, des bandages. Depuis le 17 novembre 2018, d'après le collectif Désarmons-les, on compte entre 2000 et 3000 blessés, dont 82 graves, 152 blessures à la tête, 17 éborgnés et 4 mains arrachées. On peut citer des exemples, par exemple Richie de l'île de la Réunion qui a perdu son œil gauche, Xavier de Villefranche-sur-Saône qui a le visage fracturé et les dents cassées, Patrick de 59 ans qui a perdu son œil à cause d'une grenade Gli F4. Les armes qui blessent le plus les manifestations sont les matraques qui ouvrent et fracturent, les LBD qui détruisent et font perdre les yeux, les canons à eau, les grenades à fragmentation, les grenades Gli F4, les grenades de désencerclement, putain ils adorent les grenades, et les flashballs. Il y a également eu des morts. 13 en France depuis le 17 novembre 2018. Il y a 13 personnes qui ont perdu la vie. Chantal Mazet, Zina Bredouane, Denis David, Marc Sternon, Olivier Dorel et bien d'autres. Ils avaient 23 ou 80 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte social particulier. Nous luttons pour nos services publics et contre la réforme des retraites. En une semaine à Lille, il y a eu également énormément de blessés. À la manifestation de jeudi, on compte au moins 20 blessés graves, comptabilisés par les street medics. En une semaine, deux photographes journalistes indépendants ont été blessés à la tête. Je sais ce que vous allez me dire. Les violences viennent des deux côtés. Certes, il y a eu de nombreux policiers blessés. Mais là-dessus, c'est encore l'État qu'il faut blâmer. Les forces de l'ordre sont un outil du capitalisme et un outil du gouvernement. Ils sont l'avant-garde de la destruction, de la violence et de la haine, de la répression également. Ce sont eux qui attaquent les plus démunis et qui empêchent la lutte, notamment la lutte sociale. Ceux qui aident à la privatisation de nos acquis sociaux. Ce sont ceux aussi, enfin, ils sont finalement les marcheurs armés de Macron qui sèment le chaos et la violence. Alors oui, il y a des violences des manifestants, mais ce sont juste des réponses. Manifester en rang dans un cortège ne fonctionne presque plus. L'État nous attaque à sang avec ses réformes, ses mots et sa police. On est en droit de nous défendre. Si, pour être écouté, il faut bloquer l'économie, la grève est une bonne chose. Les blocages sont une bonne chose. Les occupations sont des bonnes choses. Et alors, une certaine forme de violence devient une bonne chose. Mieux, c'est symbolique. Nous devons lutter ensemble, mes camarades, mes amis, mes voisins, les gens dans le métro. Nous devons tous nous unir pour gagner, quitte à nous battre physiquement. Le capitalisme et la privatisation ne doivent pas gagner. Jeudi, mon ami et camarade militant Antoine a été touché par un projectile qui lui a ouvert le front sur 15 cm. Il a écrit un texte sur sa page Facebook de militants et de photographes de manifs, Lutographie. Je vais en citer un passage pour conclure. J'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques tensions entre syndiqués et membres du Black Bloc. Arrêtez, vraiment. La lutte syndicale est nécessaire, autant que la lutte insurrectionnelle. Face à un gouvernement tel que celui que l'on connaît aujourd'hui, toutes les formes de lutte sont nécessaires. N'oubliez jamais qu'ils sont unis, eux, en face. Soyons-le autant que possible. Alors il faut qu'on se retrouve tous ensemble. La prochaine manifestation, c'est jeudi à 18h30. J'espère tous vous y croiser pour qu'on puisse lutter et se battre.
Au micro, au stylo, au Mikey, au Sally, à l'apéro, au niveau, merci bien number one. En amour, sans détour, à la danse et en cadence, au ballon, tiens pas bon.
Merci bien number one. Merci Massy, bien sûr comme tu le disais, jeudi 23 janvier, manif au Flambeau, rendez-vous 18h30, porte de Paris à Lille, et vendredi 24 janvier, toutes et tous en manif, c'est à 14h30.
Ah, c'est pas pour rien, c'est parce que vendredi c'est le jour d'examen de la loi, de la contre-réforme qui va tous nous appauvrir. Exactement. Quand on sera vieux, c'est le moment ou jamais de se mobiliser, de mobiliser les camarades et les collègues.
Mais pour l'heure, on passe au rouge, c'est terminé parce que rien n'a encore changé. Salut Milky.
Bonsoir.
Et juste après toi, c'est Start. Et puis après, le grand Hervé de Lille pour son Kaléidoscope Culture Plus. La lutte des classes continue sur Radio Campus 106.6 avec notamment le BCE chaque premier mercredi du mois, tous les 15 jours, des flips et des flops. Et puis le mercredi à 18h30, l'incontournable, l'heure de le mettre.
Il y a des points sur les i qui est vachement bien.
Oui, c'est vrai, moi j'aime bien aussi les motards le dimanche. Quant à nous, on se retrouve demain. Non, pas demain, jeudi
en
manif.
Il y a aussi le Matou revient à 18h.
Juste avant nous, le Matou. Salut Patricia. Et on se retrouve. On se retrouve lundi prochain à 19h sur cette même antenne. Allez, tchalo.
Vendredi en manif.
Allez, on se voit vendredi. Et jeudi soir pour la retraite au Flambeau.
Et vendredi.